Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. On est ensemble pour une heure et demie. Donc juste après, le flash d'Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
Le Kremlin met en garde. Moscou répliquera si l'Union européenne prive les Russes de visas. Certains pays veulent interdire l'Europe aux touristes russes, mais d'autres préfèrent une mesure plus symbolique, comme la suspension d'un accord prévoyant les facilités pour la délivrance de visas aux Russes. Un sujet qui sera en discussion entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UE réunis à Prague. Selon l'OMS, l'Europe est dans la bonne direction concernant la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé juge encourageant les signes de ralentissement de l'épidémie sur le continent, mais appelle tout de même à renforcer encore les efforts engagés. Le géant russe Gazprom réduit encore ses livraisons à la France. Engie l'a annoncé, il s'agit de réductions immédiates en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application de contrat. Alors cette situation inquiète-t-elle les patrons? Pour plus de précisions, on rejoint tout de suite Éric de Rietmatten en duplex de l'Hippodrome de Longchamp où se tient la rencontre des entrepreneurs de France.
Et oui, est-ce que les patrons doivent s'inquiéter? Eh bien, je les ai interrogés. Eh bien, selon eux, oui, quand même. Il y a des... Ouais. Pardon. Eh bien oui, les patrons s'inquiètent, je peux vous le dire. Je les ai rencontrés tout à l'heure. Les patrons s'inquiètent ici, alors que le MEDEF organise sa réunion annuelle. Parce que d'abord, ça veut dire que les prix vont augmenter et que deuxièmement, il faudra moins consommer. Et donc, ça va désorganiser les entreprises. Alors, qui est concerné? Eh bien, c'est surtout l'univers de la chimie. Ce sont aussi les producteurs de verre, et il y en a en France. Les artisans qui utilisent beaucoup le gaz pour leurs produits. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que cela est inquiétant pour la suite de l'année et 2023? Alors, j'ai interrogé Engie, le principal concerné. D'abord, il faut savoir que, un, les stocks sont bien remplis. Ils sont autour de 91%. Deuxièmement, il faut bien comprendre que le gaz pèse 20% seulement dans la consommation d'énergie française et sur cette part, 17% proviennent de Russie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les prix pourraient continuer de grimper. C'est ça qui inquiète essentiellement les entrepreneurs. Le mégawattheure est quand même passé de 80 euros avant la crise à maintenant 276. Bruno Le Maire vient d'annoncer à l'instant ici au MEDEF qu'il y aurait un guichet ouvert plus longtemps que prévu pour aider les entreprises qui sont concernées justement par ces hausses de tarifs, que ce soit l'électricité ou le gaz.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
On se retrouve donc pour le début du débat et je vais vous présenter les invités pour m'accompagner cet après-midi sans plus tarder. Bonjour et bienvenue à vous, Ludovine de la Rochère. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous à vos côtés. Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi d'ailleurs que Jean Messia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut Apollon. Ça n'a pas changé. Et puis à vos côtés, Noémie Schulz, pour commencer cette première partie d'émission. Noémie, du service police-justice de la rédaction. Alors on vous a fait venir parce qu'on va commenter cette décision qui était très attendue pour cette fin de l'été. Ça a été un petit peu la saga, disons, judiciaire de l'été. Le Conseil d'État était amené à se prononcer sur la requête du ministère de l'Intérieur qui voulait faire annuler une décision du tribunal administratif suspendant la demande d'expulsion du prédicateur Hassan Iqiyoussen. Et donc, cette décision est tombée. Le Conseil d'État valide l'expulsion de cet imam. On va peut-être commencer avec ce qui a motivé la décision du Conseil d'État. Comment s'en explique-t-il ?
Oui, le Conseil d'État, il a été amené à intervenir parce que le tribunal administratif de Paris avait, il y a quelques semaines, suspendu l'arrêté d'expulsion en disant qu'il n'y avait pas matière à expulser l'imam Iqiyoussen. Et donc le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait appel de cette décision. Et c'est la raison pour laquelle cette affaire s'est retrouvée devant le Conseil d'État lors d'une audience qui a eu lieu vendredi. Et effectivement, la décision vient d'être rendue publique. Alors dans un communiqué de presse qui nous a été envoyé, on apprend que Le Conseil d'État estime que les propos antisémites tenus depuis plusieurs années par l'imam Iki Houssen, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion. Pour être simple, un étranger qui vit en France depuis plus de 20 ans, comme c'est le cas de cet imam, il bénéficie d'une protection quasiment absolue. C'est très difficile d'expulser un étranger qui vit en France depuis plus de 20 ans. Mais il existe des cas, des situations où l'expulsion peut être possible, et notamment s'il y a des actes de provocation délibérée à la discrimination, la haine ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes. Et c'est ce qu'estime aujourd'hui le Conseil d'État. Par ailleurs, le tribunal administratif avait dit que le fait d'expulser l'imam Iki Houssen représenterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de l'imam. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est né en France il y a 58 ans, il y a toujours résidé, il y a une femme, il a 5 enfants, il a 15 petits-enfants, tout le monde vit en France, et donc le tribunal administratif avait estimé que ce serait une atteinte trop importante à sa vie privée et familiale que de l'expulser. Et là encore, le Conseil d'État répond non, ça ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale. Pourquoi ? Eh bien notamment parce que les enfants de l'imam Iki Houssen sont majeurs, ne dépendent plus de leur père, que son épouse est de nationalité marocaine et donc elle peut se rendre avec lui au Maroc ou en tout cas aller le voir. Ses enfants aussi pourront le rejoindre le cas échéant. Et donc le Conseil d'État estime que la décision d'expulsion n'est pas manifestement disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale donc à la vie privée et familiale.
Deux premières réactions en plateau et puis on reviendra à ce qui va se passer maintenant à l'aune de cette décision. Benjamin Haddad, peut-être pour commencer. Donc on voit que l'argument de la vie privée finalement ne tenait pas pour le Conseil d'État. Il s'appuie essentiellement là-dessus pour retoquer le tribunal administratif.
Je me félicite de cette décision du Conseil d'État d'expulser l'imam Iki Houssen, un imam étranger qui tient des propos antisémites, homophobes, sexistes, intégristes, n'a rien à faire sur notre territoire. Là, en plus, on était dans une situation où il voulait faire renouveler sa carte de séjour. Donc, il aurait fallu que la République renouvelle la carte de séjour d'un imam intégriste étranger qui, d'ailleurs, rappelons-le, est né français, a répudié sa nationalité française, aujourd'hui est marocain. Tout ça n'avait aucun sens. Donc, je pense que c'est une décision, là, de bon sens du Conseil d'État. Je voudrais rajouter aussi que c'est grâce à l'arsenal législatif qui a été renforcé par notre majorité au mandat précédent avec la loi sur le séparatisme qui permet d'expulser un étranger qui tient ce type de propos radicaux, qui permet de fermer des lieux de culte, de fermer des associations aussi qui sont liées avec des mouvements intégristes. La République doit se défendre contre l'islamisme sur son territoire et là, on a un exemple effectivement d'un succès important aussi pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait mené cette lutte contre l'imam Iki Houssen.
Olivier Véran, il y a quelques jours, un porte-parole du gouvernement, Jean Messia, avait dit un refus de la part du Conseil d'État, ce serait un très mauvais signal envoyé. Il a donc entendu finalement cette motivation et cette requête aussi de l'exécutif.
Je crois qu'il n'y a pas un seul Français, à part peut-être le juge administratif de première instance, qui, dans une sorte de tradition d'un certain nombre de juges félons, qui ont à cœur de défendre les ennemis de la République contre la République. Je crois qu'il n'y a pas un seul Français qui n'a pas compris pourquoi un tel individu n'avait pas été expulsé, ou en tout cas que son expulsion a été suspendue, arrêtée par le tribunal administratif. Donc moi, je me réjouis de la décision du Conseil d'État, qui est juste une décision de bon sens, en fait, parce qu'on nous oppose que ce type a vécu pendant 20 ans en France, mais depuis quand le nombre d'années de vie dans un endroit vous donne le droit de trahir cet endroit, ou de trahir ce pays. Je vous rappelle quand même que pour ceux qui avaient commis des attentats contre la France, qui étaient pour le coup français, même une majorité socialiste à l'époque, François Hollande, avait parlé de déchéance de nationalité française. Donc sa nationalité française qu'il n'a pas au demeurant, ni le nombre d'années qu'il a passé sur le territoire ne permettent de le dédouaner de ce discours à proprement haineux, anti-français, anti-républicain, et donc c'est une excellente chose. Il avait lui-même effectivement répudié la nationalité française parce qu'il était né français, au motif qu'il n'avait rien à voir avec la France ni avec ses valeurs. Donc on se demande pourquoi ce gars-là vivait en France. Il aurait dû mettre ses actes en conformité avec ses idées et partir vivre au Maroc. Quant à la vie familiale normale dont a excipé le tribunal administratif en première instance, excusez-moi, mais ceux qui ont droit à une vie familiale normale jusqu'à nouvel ordre, ce sont les Français. Ce sont les victimes des discours de l'imam Iki Houssen qui, eux, pour le coup, n'auront jamais une vie familiale normale, alors que cet imam nauséabond pourra continuer à avoir une vie familiale normale au Maroc. Donc vous voyez, je pense que cette décision est une bonne décision, mais derrière l'imam Iqwisen, combien d'autres prêcheurs, combien d'autres ennemis de la France continuent à pulluler dans notre pays sans qu'on se donne les moyens de les expulser ou même de les sanctionner? C'est ça la question.
Alors aujourd'hui, on va rester sur ce cas. Ludovine de la Rochère, une réaction de votre part? Il semble donc que cet argument qu'il avait avancé lui-même lorsqu'il avait saisi les juridictions administratives du rapprochement familial, enfin du maintien au sein de sa famille, de la vie privée, n'a pas été retenu. Ça a été jugé, disons, trop faible et pas approprié au regard de ce qui lui est reproché réellement.
Alors, en fait, quand il a excipé de cet argument, je suppose qu'il était, comme toujours, malheureusement, fort bien conseillé par des associations très spécialisées en la matière, des avocats qui font tout pour éviter, ou en tout cas pour ne pas faire respecter, effectivement, les habitants de notre pays. Et ces enfants, vraisemblablement, et petits-enfants nés sur le sol français, ont probablement la double nationalité. Lui-même a rejeté la nationalité française, et donc il ira, et s'il veut, avec sa famille, au Maroc. Donc tout cela est très bien, et protège enfin les Français. Moi, je suis surtout atterrée de la décision qui avait été prise par le tribunal administratif de Paris. Il y a urgence à changer d'état d'esprit, peut-être à simplifier notre droit, qui n'a pas été fait en donnant la priorité aux habitants de notre pays, encore une fois, et qui finalement va toujours beaucoup trop loin dans les possibilités d'argusie juridique et qui se retourne contre nous-mêmes. On se retrouve dans des contradictions et face à des décisions très souvent aberrantes. Et de fait, il y a le cas de cet imam, malheureusement, il y a bien d'autres cas. Et puis l'autre question qui est devant nous, sera-t-il vraiment expulsé ? Le Maroc rentrera-t-il dans un accord, puisque dans ce cas-là, on sait bien que...
Se conformera-t-il à la décision, enfin,
ça y est, c'est fait.
Absolument. Oui, enfin, il est encore sur le territoire français.
Oui, ça suppose.
Attendez, chacun son tour.
C'est une bonne nouvelle. Mais les expulsions, on sait à quel point elles sont extrêmement peu appliquées. Et peu appliquées, pardon. Et puis après, reviendra-t-il ? Donc à mon sens, si vous voulez, c'est un pas, une goutte d'eau dans un océan qui est positif, mais j'attends de voir la suite, été si souvent déçus.
Justement, on va en parler avec vous, Noémie Schulz, elle vous met le pied à l'étrier, si j'ose dire. Que va-t-il se passer maintenant? Quels sont aussi les freins, voire les recours qui se posent à lui désormais?
Alors là, pour lui, il n'y a plus de recours. Le Conseil d'État a tranché dans cette procédure d'urgence en référé liberté. Donc à partir de maintenant, ou du moment où le Conseil d'État valide l'expulsion, l'imam Iqwisen, il peut être expulsé à tout moment, puisque un arrêté d'expulsion avait été pris et que le laissez-passer consulaire aussi a été délivré par le Maroc.
Il peut avoir recours à la CEDH ? Possiblement.
Moi, les informations que j'avais, en tout cas hier au ministère, quand on leur posait la question de savoir ce qui allait... Non, en tout état de cause, si c'était rejeté ou si c'était accepté, on m'a expliqué que si l'expulsion était validée, il n'y avait plus d'obstacle à son expulsion, si ce n'est le fait de mettre la main sur lui.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais la CEDH, qui avait été saisie avant la décision du Conseil d'État, avait validé. L'expulsion de l'imam. C'était pour la première fois d'ailleurs que ça arrivait, ça avait surpris tout le monde, donc la CEDH...
Donc là, vous répondez réellement à Ludovine de la Rochère.
C'est pour ça qu'on avait été un peu surpris d'ailleurs par la décision.
La raison, c'est qu'on attend de voir l'avion décoller du tarmac, parce que effectivement, avec tous les recours, jusqu'à l'accès à l'avion, il est toujours possible qu'il se passe quelque chose.
D'accord, Noémie, alors poursuivez votre
explication. Mais donc voilà, maintenant, à tout moment, il peut être expulsé. On n'a pas, nous, la date précise, mais ça peut intervenir effectivement extrêmement rapidement.
Donc, il peut partir son propre chef, et s'il ne le fait pas, s'il est régalé Citron, on le met dans un avion, il peut partir. Après,
absolument, il peut être raccompagné.
Manu Militari, il y a aussi, c'est vrai, vous le souleviez, en filigrane quand même, l'attitude et la réaction qu'aura le Maroc. C'est quand même une question que les gens vont se poser à partir de maintenant. Benjamin Haddad.
Non, mais là, on est dans un cas de figure où effectivement, il sera expulsé. La décision est prise. Effectivement, la CEDH avait déjà été saisie et voilà. C'était prononcé de façon favorable. C'est pour ça que certains avaient été surpris par la décision après du tribunal administratif. Oui. Et le Maroc a donné à laisser passer. Mais vous parliez du droit et vous avez raison. C'est vrai que nous avions dit que nous étions prêts à changer la législation si on n'était pas en mesure de pouvoir l'expulser. Et il y a un débat plus large, au-delà de cette question de l'intégrisme, qui est effectivement la question de l'expulsion de délinquants étrangers lors de crimes graves ou de délinquants en situation irrégulière. Et ça, nous avons déjà dit que c'était un sujet que nous voulions lancer à la rentrée pour pouvoir renforcer le droit, pour pouvoir limiter le temps de recours et d'appel pour l'expulsion et faire en sorte que les obligations de quitter le territoire français soient effectivement appliquées.
Déjà faire en sorte que les OQTF soient vraiment menées à leur terme, puisqu'il n'y en a que 10% environ,
réalisées. Oui, mais vous avez pour beaucoup de raisons. Alors, certaines raisons, c'est qu'effectivement, on n'a pas les laissés-passer avec un certain nombre d'États, par exemple d'Afrique du Nord, qui ne le reprennent pas. Donc ça fait l'objet d'ailleurs d'un bras de fer, d'une certaine façon, entre la France
sur et les visas, pays. Mais
depuis sur la question des visas depuis,
jusqu'à un certain
depuis quelques
point,
mois.
Dans une certaine proportion.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que vous avez un temps d'appel et de recours qui est très long. Vous avez beaucoup d'instances différentes. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une obligation de quitter le territoire français dès le refus d'asile et qu'après les temps de recours soient beaucoup plus ramassés pour pouvoir permettre une expulsion. C'est le débat qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur et qui se traduira, je pense, dans une loi dans les prochains mois.
Pour l'instant, avec un succès plutôt limité face au bras de fer, comme vous le disiez, qui s'est engagé.
Mais non, mais justement, c'est pour ça qu'on a lancé ce débat, pour pouvoir changer la loi dans les prochains mois.
Ok.
Parce que quand même, la mise en œuvre des OQTF, elle était d'environ 20% sous François Hollande et elle était de 5-6% sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc la marge de progression est absolument...
On l'évalue à 12%.
Par ailleurs, la CEDH est habituellement le dernier recours après toutes les juridictions nationales. C'est pour ça que je suis étonnée.
Bon, là, c'est fini.
Il y a une exception dans les procédures classiques. En
parce que dans la chronologie, en fait, la CEDH s'était exprimée avant.
Et il doit y avoir une raison technique précise, en effet.
Quelque chose à rajouter, peut-être sur les réactions, le Conseil d'État.
On a juste vu Gérald Darmanin qui s'est félicité de cette décision, qui est une décision quand même qui a été rendue en droit, hein, puisque ce sont des magistrats là, qui se sont penchés sur cette affaire. Et on attend effectivement, on a sollicité les conseils de l'imam Iqi Hussein pour éventuellement avoir des réactions de leur part.
En tout cas, c'était attendu pour aujourd'hui. Hein. C'était bien aujourd'hui qu'elle devait intervenir, a priori, cette décision. Un dernier mot avec vous, peut-être.
Oui, il y avait une question juridique qui avait été justement excipée par les conseils de l'imam et toute une partie de la gauche, à savoir que l'imam Iqi Hussein n'avait jamais été condamné par une juridiction pénale ou civile dans le cadre des propos qu'on lui prête, c'est-à-dire les propos antisémites, les propos homophobes, qui sont évidemment contraires à la loi. Mais cet argument, évidemment, ne tient pas, parce que la décision, en l'occurrence, est une décision politique, comme d'ailleurs la décision d'interdiction ou de dissolution de Génération Identitaire. Génération Identitaire n'avait pas été accusée par une juridiction à un quelconque racisme et n'avait pas écopé d'une amende ou de la prison. Et pourtant, ça n'a pas empêché le ministre Gérald Darmanin de la dissoudre. Donc tout est politique, en réalité. Et le droit, on ne peut pas le tordre. Il est droit, comme on dit. Voilà.
C'est un des arguments, effectivement. C'est ni condamné, ni même poursuivi.
Voilà,
donc les avocats disait aujourd'hui vous demandez l'expulsion, mais vous n'avez jamais auparavant, ne serait-ce que porté plainte et demandé à ce qu'il soit condamné pour ses propos. Ça faisait partie effectivement des différents arguments qui ont été développés devant le Conseil.
Je vois que vous aviez quelque chose à ajouter. Oui, ça vous inspire évidemment.
Le droit devrait être droit, mais en vérité, vous savez bien, Jean Messia, que le droit s'interprète de différentes manières. C'est une science humaine, pour te dire, et d'ailleurs, pourrait-on dire, le tribunal administratif avait jugé qu'on ne pouvait pas l'expulser. Le Conseil d'État dit le contraire, et c'est bien le problème. Le droit arrive à un niveau de complexité, d'ailleurs, c'est une bibliothèque entière aujourd'hui, et c'est pour cela que je disais, il y a besoin de clarté, peut-être sous forme de simplification, parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Quand on se rend devant la justice, on ne sait jamais ce qui en sortira.
C'est vrai.
Ce qui en sortira. Et d'ailleurs, on le sentait dans les propos d'Olivier Véran et de Gérald Darmanin.
C'est pour ça qu'il y a un double degré de juridiction. Vous avez en première instance et que vous avez un
double degré
de juridiction d'appel. Il y a aussi la difficulté qui est l'application des traités européens. Et en l'espèce, le droit à la vie privée et familiale, c'est l'application d'un article de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est l'application du droit européen appliqué au droit français. Donc c'est
tout ça. Tout à fait. Et donc
dans les choses très compliquées.
La gauche immigrationniste, enfin ou islamo-favorable, pourrais-je dire. Favorable à l'islamisme, enfin collaborateur d'une certaine manière de certains courants, ne cesse d'inviter à utiliser le droit dans toutes ses complexités, dans tout ce millefeuille pour gagner du temps, pour aller toujours plus loin. Et puis les années passent, les lustres passent, les décennies passent.
C'est là où on a un vrai problème. Et on voit bien que territoire n'est pas, notre droit n'est
pas efficace. On va changer de thème parce qu'il nous reste quelques minutes dans cette première partie. Merci beaucoup, Noémie Schuss, pour ce dégagement et ces explications. Je vous rappelle, quand même, si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne, que le Conseil d'État a validé l'expulsion de l'imam Iki Youssen cet après-midi. Voilà, dans un instant, on va parler sécurité avec David-Olivier Reverdy qui nous rejoint dans un tout petit instant, secrétaire national Province Alliance. On va parler de la barbarie et de l'envie de tuer à l'issue d'une altercation de soirée à Toulouse. Un homme s'en est sorti avec un traumatisme crânien. Ça aurait pu être pire. Vous avez peut-être vu ces images. Vous êtes peut-être résolu à les regarder, mais elles font froid dans le dos. Je vous propose d'observer cette séquence et puis la réaction de Mathieu Vallée, commissaire de police. Voilà, la séquence, je vais la commenter en même temps parce qu'évidemment, c'est une caméra de surveillance. Donc voilà, vous voyez ces deux hommes qui fuient à scooter et qui, dans leur fuite, eh bien, roulent sur le corps de l'homme qu'ils viennent de rouer de coups. Ça n'est plus un fait divers, comme on le dit. On va peut-être écouter Mathieu Vallée, puis je vous fais réagir.
Les images, elles sont atroces. On voit bien que ce n'est pas un fait divers. C'est un fait d'insécurité. Tous les jours dans notre pays, on a des actes barbares et sauvages commis par des voyous qui sont maintenant des criminels et qui ne sont plus des êtres humains mais des animaux. Vous imaginez bien que quand vous roulez avec un scooter sur le corps d'une victime, quand vous la rouez de coups au niveau du visage en vous acharnant comme on le voit sur la vidéo, c'est insoutenable. Et je veux saluer le courage des deux témoins, dont une femme qui intervient pour éviter que ce lynchage se termine en véritable, finalement, scène de sang où on a appris que la victime s'en sort avec un traumatisme crânien et des blessures, mais dont les jours ne sont pas en danger. Et c'est un miracle, parce que quand on voit la violence et l'agression barbare, abjecte dont elle a été victime, c'est vrai que c'est un miracle qu'elle soit aujourd'hui encore en vie et qu'elle n'ait pas des séquelles très importantes.
Bienvenue David-Olivier Reverdy. Merci. Bonjour. Vous avez vu ces images comme nous, vous les connaissez depuis quelques heures maintenant. Ce n'est plus un fait divers, comme le dit Mathieu Vallée. Là, c'est vraiment un fait de délinquance grave.
Il faut arrêter de parler de faits divers aujourd'hui parce que c'est banaliser cette ultra-violence. Ce sont des faits majeurs qui se passent aujourd'hui dans le pays. Et la prise de conscience doit être prise de tous. De manière à ce que, j'allais dire, la peur de la police, la peur du gendarme, la peur de l'uniforme, la peur de la sanction soit une réalité dans ce pays, ce qui n'est vraiment pas le cas.
On ne roule pas comme ça, on l'a vu, hein, à la fin, sur un homme déjà à terre, qu'on a déjà tabassé, sans avoir d'intention claire, à ce stade, d'en finir avec lui. On est d'accord là-dessus.
Bien évidemment.
Ou alors, c'est vraiment... on ne va pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils sont montés sur le scooter. Là, il y avait une intention claire.
Oui, non, mais l'intention, je pense, est caractérisée et est très claire quand on voit ces images. Et encore une fois, il ne s'agit pas de trouver des excuses ou trouver des justifications à ces faits-là qui sont inqualifiables et injustifiables et qui méritent qu'une chose, c'est la prison, aujourd'hui.
Benjamin Haddad, on a vu aussi, vous avez peut-être aperçu sur ces images, notamment il y a une jeune fille qui tente de s'interposer. Il faut quand même le souligner parce que c'est suffisamment rare justement pour être noté, l'héroïsme de ces personnes qui tentent et qui voient bien que ces types sont prêts à en découdre jusqu'au bout, qui tentent de s'interposer, ça aussi ça marque dans certains cas.
Oui, ça marque. Vous avez des petits moments de bravoure et d'héroïsme, mais c'est vrai que ces images sont extrêmement choquantes. Il n'y a aucune excuse, aucune justification, comme le disait à l'instant monsieur. Je crois qu'il faut une réponse multiforme. Effectivement, il faut donner plus de moyens à la police et faire en sorte que les policiers puissent être présents sur le terrain. Ce qu'on a essayé de faire avec le recrutement de 10 000 policiers en plus, c'est un objectif du président de la République de doubler la présence des policiers sur le terrain et donc de réduire les tâches indues administratives aussi que font les policiers aujourd'hui, d'avoir une véritable exécution des peines, parce qu'effectivement, il y a la dimension policière, mais il y a aussi la dimension judiciaire. Et donc, là, faciliter, renforcer, accélérer le travail de la justice avec le recrutement de 8 500 magistrats et greffiers en plus. Et puis après, je crois que ce qu'on voit là aussi, c'est une forme de crise d'autorité. Il faut, je pense, revaloriser, redonner de l'autorité à nos forces de l'ordre qui nous protègent. Quand on a tout un pan de l'échiquier politique, et notamment l'extrême gauche, qui nous explique que la police tue, qu'il faut désarmer la police, je pense que ça participe de cette crise de l'autorité. Et donc, redonner aussi à la fois dans la lutte contre l'insécurité, mais aussi à l'école. On a en ce moment tout un débat sur la question de l'éducation nationale. Remettre de l'autorité dans ce pays, je pense que c'est absolument
sauf,
urgent.
Sauf que là, quand même, on voit bien, bon, il n'y a pas de policiers en intervention. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne qui sort et qui tente de se détendre le soir. Là, ça va beaucoup plus loin, Ludovine de la Rochère. Au-delà même de la réponse pénale, ça marque, c'est quand même un marqueur de cet ensauvagement de la société qu'on décrit.
Oui, de cette véritable barbarie mondiale.
Parce que là, c'est sauvage, cette action.
De la délinquance, on est dans la barbarie, à vrai dire. Et pour moi, cela pose le problème évidemment des possibilités, des capacités des forces de l'ordre, mais elles ne peuvent pas être derrière chacun, vous l'avez dit. Et c'est bien vrai, là, c'était quelques personnes qui déambulaient le soir tranquillement. L'un d'eux semble avoir fait peut-être une remarque, et on peut imaginer que ces personnes qui ensuite l'ont attaqué de cette manière-là se comportaient peut-être déjà pas formidablement bien, donc il a dû faire une petite remarque, et voilà ce qui arrive. Et ce type de fait survient quand même de plus en plus souvent. On a une immense difficulté. Alors, il y a les possibilités des forces de l'ordre, il y a un changement qui est nécessaire, et on le disait juste avant, du côté de la justice. Vous évoquez l'école, mais l'école, justement, elle ne peut pas éduquer. Et cela fait des dizaines d'années que l'État prétend éduquer les enfants. Il aurait dû voir depuis longtemps qu'il ne le peut pas. Qu'est-ce qui fait la première éducation et l'éducation la plus efficace? Ce sont les familles, ce sont les parents. Et remettre de l'autorité, c'est en remettre dans toute la période qui précède. Autrement, c'est l'escalade jusqu'à des faits dramatiques.
Jean Messia,
et là, on a vraiment à travailler sur les causes.
Jean Messia, et avant de refermer cette première demi-heure, juste un commentaire. S'il vous plaît, pas de long silence. On va essayer de ne pas avoir de long silence derrière, parce que je sais que vous êtes coutumier du fait.
Non, ah, mais là, c'est pas moi
les mots ne vont pas vous manquer, là, c'est sûr.
Ce n'est pas moi qui fais le long silence. Je provoque les longs silences. Ce n'est pas pareil.
Non, mais je sais. Mais bon, c'était juste pour faire un bon mot.
C'est-à-dire, quand on voit ça, si vous voulez, moi, je serais curieux de si on pouvait montrer ce film à un Français qui vit dans les années 60. Si on pouvait faire un voyage dans le temps en montrant ces images à un Français d'il y a 30 ou 40 ans pour lui dire ce qu'il en pense. Il va vous dire que ce n'est pas en France, en fait. Il va vous dire que c'est peut-être, je ne sais pas, en Afrique ou dans un pays du Maghreb, et encore. On a atteint, si vous voulez, en France, un niveau de sauvagerie qui, pour un pays civilisé, un pays moderne, étonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, que la majorité nous explique que tout est fait depuis maintenant 5 ans ou 5 ans et demi pour mettre des policiers sur le terrain, pour mettre plus de moyens pour la justice, pour mettre plus de moyens pour la police. C'est probablement vrai. Mais tant qu'on n'a pas effectivement arrêté les vannes qui provoquent cet ensauvagement, c'est-à-dire l'apport de populations dont on sait que la participation au phénomène de délinquance et de criminalité est importante, vous pourrez mettre tous les moyens supplémentaires sur le terrain, ça ne servira à rien. Il faut arrêter l'immigration et surtout certaines immigrations.
Pas besoin de long silence puisque on part faire une
sauvé,
petite
alors.
Pause. Exactement, sauvé par le gong et même par le jingle, on se retrouve juste après la pause. De retour avec vous, 90 minutes, la suite, c'est dans un tout petit instant, juste après le journal. On va parler évidemment du Conseil d'État qui a tranché, on l'a évoqué tout à l'heure. Il donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen, décidé par Gérald Darmanin sur Twitter. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur parle d'une grande victoire pour la République. Le juge des référés a en effet estimé que les comportements de l'imam constituaient des actes de provocation explicites et délibérés, entraînant à la discrimination ou à la haine. Dans l'actualité également, après la première ministre hier, c'est Bruno Le Maire qui était face au MEDEF aujourd'hui, notamment sur les questions autour de l'énergie et de notre dépendance énergétique. La rencontre des entrepreneurs de France qui se poursuit en ce moment même à l'hippodrome de Longchamp. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est exprimé face au patron. Éric de Rilmatten, que faut-il retenir de cette demi-heure, hein, il a parlé une demi-heure, je crois, le ministre de l'Économie, demi-heure d'allocution. Oui.
C'est ça, 30 minutes précisément. Alors vous voyez, je suis au cœur du village des entrepreneurs de France organisé par le MEDEF. Vous voyez, les patrons chefs d'entreprise sont en train de discuter. Ils parlent de quoi? Eh bien, de cette confirmation, bonne nouvelle de Bruno Le Maire. Il n'y aura pas d'impôts supplémentaires pour les entreprises, pas de taxes sur les super profits. Au contraire, a-t-il dit, il faut aider les entreprises parce que quand on taxe, eh bien, on produit moins en France. Ça, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire et il a été applaudi, bien sûr, vous vous en doutez. Alors, ce qu'il souhaite tout de même, c'est que les entreprises reversent une partie de leurs bénéfices dans la poche du consommateur. C'est vraiment la phrase qu'il a employée. Ça veut dire quoi, la poche du consommateur? Eh ben, c'est aider à faire baisser les prix, à contenir l'inflation. Par exemple, on l'a vu avec le carburant, hein, Total qui a fait une petite remise sur le prix de l'essence. Mais il veut que ce soit pareil pour les assurances et les frais bancaires. Et il y aura une réunion organisée bientôt au ministère de l'Économie. Les entreprises vont être également plus soutenu et aidé, surtout les petites entreprises, les PME, les artisans, parce que le guichet qui devait être ouvert pour, vous savez, le bouclier tarifaire des entreprises, là, il était fermé en août, eh bien, il va être prolongé et simplifié jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc un mot juste pour les particuliers. Parce qu'on a posé la question, est-ce que justement les aides de l'État pour le prix de l'énergie va être maintenues en 2023? Il a répondu, il y aura de toute façon des hausses, il faut s'y attendre, mais ces hausses seront contenues. Voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'a dit Bruno Le Maire.
Merci beaucoup, vous êtes en direct de l'hippodrome de Longchamp. Merci à vous, cher Éric. En France, le prix du gazole continue d'augmenter, une hausse de 8 centimes en seulement une semaine pour s'établir à 1,99 € le litre. Je vous laisse prendre connaissance d'ailleurs de ce carton qui décrit toutes les hausses de vos carburants à la pompe. Et justement, pour les 21 millions d'automobilistes, un sentiment d'impuissance semble maintenant ancré dans le temps. Regardez ce reportage de Quentin Gribel et Olivier Gangloff.
C'est une nouvelle dont les automobilistes se seraient bien passés.
55 litres à presque 100 €.
Depuis une semaine, les prix des carburants repartent à la hausse. À la pompe, les réactions sont partagées entre l'énervement.
Un scandale. Pour aller travailler ou pour autre, c'est vraiment difficile.
Et la résignation.
On ne peut rien faire, de toute façon, on en a besoin, donc on est obligé de remplir les réservoirs.
On n'a pas le choix parce que compte tenu des horaires de travail, on est obligé de prendre la voiture. Mais c'est de plus en plus compliqué, effectivement.
Pour essayer de contrer cette hausse, les solutions sont-elles quasiment toujours les mêmes?
On se restreint, malheureusement.
Réviser et réviser à la baisse. Sur l'alimentaire, un peu. Et puis sur tout ce qui n'était pas essentiel.
Youssef, étudiant, a même dû prendre une décision encore plus radicale.
J'ai décidé de vendre ma voiture. Donc celle-ci, c'est encore celle de mes parents.
Face à cette remontée des prix, le gouvernement augmentera jeudi son aide de 18 à 30 centimes par litre, une remise qui sera ensuite abaissée à 10 centimes à partir de novembre.
Et puis un mot de la situation au Pakistan, hein, situation qui se tend. Plus de 10 milliards de dollars seront nécessaires pour réparer les dégâts, reconstruire les infrastructures, les habitations dévastées ou encore les terres agricoles. Plus de 1100 personnes ont d'ores et déjà péri dans ces inondations consécutives à des pluies diluviennes. Le point avec Maureen Vidal.
Dans ce village enseveli par les eaux, ces Pakistanais sont immergés jusqu'aux hanches. Ces derniers jours, le Pakistan subit les pires pluies de mousson depuis 30 ans. Sur ces images prises à partir d'un satellite, on peut voir l'étendue des dégâts avant et après les précipitations. Un tiers du pays est touché, des inondations qui ont provoqué la mort de plus d'un millier de personnes et qui ont tout emporté sur leur passage.
Nous avons perdu nos maisons et nous vivons ici dans ce camp avec nos enfants. Nous avons quitté le village à pied, nos maisons se sont effondrées et il ne reste plus rien.
1 million d'habitations ont été détruites. Pour s'abriter, les rescapés ont installé des camps de fortune en bord de route où une grande opération de secours se met en place dans le pays pour venir en aide aux victimes qui ont tout perdu.
Pour l'amour de Dieu, aidez-nous, donnez-nous des rations, s'il vous plaît. Reconstruisez nos maisons lorsque l'eau se retirera. Nous avons de petits enfants, nous sommes assis ici sur la route à découvert après avoir sauvé nos vies.
Selon les responsables pakistanais, ces intempéries sont dues au changement climatique. Les Nations Unies ont lancé un premier appel urgent au don de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes.
Voilà pour l'essentiel. On reprend le débat sur la sécurité, la délinquance également avec Ludovine de la Recherche, Jean Messia, Benjamin Haddad et David Olivier Reverdy. Je me tourne vers vous à nouveau. On a parlé de l'ensauvagement de la société, on a parlé de cet horrible acte de barbarie, hein, on va l'appeler ainsi, à Toulouse, avec ces images qui nous ont tous émus et même laissés sans voix. J'aimerais qu'on parle d'un autre cas de figure, ce qui s'est passé à Tourcoing, il y a quelques heures, avec un homme qui est mort après un refus d'obtempérer, un des policiers qui était en intervention, qui voulait s'apprêter à faire un contrôle, a sorti son arme parce qu'il s'est senti en danger. Il a donc mortellement blessé cet individu, mais ça repose aussi, vous nous le disiez, David-Olivier Reverdy, la question de la responsabilité pénale et de la réponse pénale, parce que cet homme en question, il avait déjà, été condamné.
Alors, plusieurs choses. On le voit à travers les faits divers nombreux et variés qui se passent, les faits majeurs presque, j'ai envie de dire. Ça touche tout le monde, ça touche les populations civiles, mais également ça touche les fonctionnaires de police. L'autorité, tout ce qui représente l'autorité, des médecins qui vont soigner dans une cité se font également agresser. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Deuxièmement, quand on parle de refus d'obtempérer et on l'associe souvent à des tirs de policiers qui, le cas échéant, peuvent entraîner la mort de la personne. J'ai envie de vous dire, ce ne sont pas les refus d'obtempérer qui tuent. C'est qu'avant d'arriver à ce refus d'obtempérer, les individus étaient dans un véhicule signalé volé. D'accord ? C'est déjà le premier fait. Deuxième fait, c'est qu'il y a une tentative d'homicide sur des fonctionnaires de police. C'est-à-dire lorsque l'individu qui était arrêté, tout feu éteint dans son véhicule volé, décide au moment du contrôle des policiers que d'enclencher la première et de blesser un collègue qui tombe au sol. Forcément, il y a riposte, tir, et ça entraîne la mort. Donc ce n'est pas les refus d'obtempérer. Il ne faut pas associer le refus d'obtempérer avec le décès à tout coup. Pour rappel, pour mémoire, il y a un refus d'obtempérer en France toutes les 30 minutes. Fort heureusement, il n'y a pas un mort suite au refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important à dire, parce qu'il y a un amalgame qui est fait, notamment par la France insoumise, qui parle que la police tue, vous l'avez rappelé, monsieur, que la police assassine, et ainsi de suite. Donc ce sont des paroles odieuses et l'amalgame qu'il ne faut pas
faire. Mais cet individu, vous avez des informations sur cet homme?
Cet individu qui est, j'allais vous dire, connu très, très défavorablement des services de police, et il semblerait que ce même individu a exécuté une peine de prison de 6 mois non aménageable.
Oui.
C'est-à-dire que là aussi se pose la question de l'exécution des peines, où, je vous le rappelle, ça ce n'est pas nos chiffres, les chiffres syndicales, ce sont les chiffres des états généraux de la justice qui mentionnent que 95 000 peines de prison en France ne sont pas exécutées. Donc manifestement, ce monsieur faisait partie de ces 95 000 peine de prison non exécutée. Peut-être s'il avait exécuté sa peine,
on
n'en serait pas là aujourd'hui.
Effectivement, ça pose question. Jean Messia, c'est toujours la même réaction que ça suscite.
Hélas.
Et s'il avait été en prison, effectivement, il n'y aurait pas eu cet engrenage derrière.
Mais c'est tout à fait vrai. Moi, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons affaire à des individus, contrairement à ce qui est dit, qui ne s'attaquent pas uniquement à l'autorité. Je pense que c'est beaucoup plus grave, en fait. C'est que ces individus s'attaquent à la France et à tout ce qui représente la France, au premier rang desquels, évidemment, les policiers en uniforme. Ce sont des individus qui, très souvent, se comportent en territoire conquis, avec une vraie mentalité, non seulement de revanchards, mais de colonisateurs. C'est-à-dire ils sont chez eux, ils entendent rester chez eux, et tout ce qui peut représenter, si vous voulez, les institutions ou la légitimité du pouvoir français, ou tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la France, eh bien, on la bouscule, on l'écrase, on essaye de l'outrepasser, etc. Donc la guerre, en fait, parce que c'en est une, c'est une véritable guerre civile larvée qui est livrée à la France. C'est une guerre identitaire contre laquelle on ne se bat pas exclusivement avec des armes juridiques. On se bat contre une identité avec une autre identité. C'est-à-dire qu'il faut que la France utilise la République, qui est son régime, comme un cran d'arrêt ferme, avec une main ferme, pour arrêter ces revendications agressives, violentes, guerrières, alter-identitaires, qui s'expriment tous les jours sur toutes les parties de notre territoire.
Revenons à la réponse pénale et à l'exécution des peines surtout, parce que c'est ce qui nous expliquait, en gros, M. Reverdy, Benjamin Haddad, au-delà même des places de prison, au-delà même de, comment dire, la rapidité de la réponse pénale, de la justice à se mettre en œuvre, en branle pour faire condamner, ou en tout cas pour juger, il y a le problème de l'exécution des peines. On n'arrive même pas à faire exécuter les peines qui ont été infligées. Et c'est ça qui, aujourd'hui, désarçonne un peu les Français, au-delà même des constructions de prisons, qui sont encore autre chose.
Ce n'est pas encore autre chose, parce que souvent, on n'arrive pas à faire exécuter.
Oui, mais enfin, il y a quand même une
manque de place, parce que temps judiciaire est trop long. Donc
déjà, si on pouvait envoyer en prison ceux qui sont...
Certes, mais il y a question des moyens, effectivement, dans la rapidité du rendu de justice. Et puis après, il y a question de l'exécution des peines. Et souvent, effectivement, un problème immobilier, pas uniquement, vous avez raison de le rappeler, mais avoir plus de places de prison, ce qui est vraiment une priorité, permettra d'avoir une meilleure exécution des peines et permettra aussi d'ailleurs d'avoir peut-être des conditions de détention qui ne seront pas aussi inhumaines que celles qu'on voit souvent. Mais on parlait tout à l'heure de l'imam Iqiyoussen, de l'intégrisme, on parle maintenant d'insécurité sur tous ces sujets. On ne peut pas tolérer qu'en France, que sur le territoire républicain, il y ait des zones de non-droit, il y ait des zones où le droit n'est pas appliqué, où les valeurs de la République sont bafouées. C'était tout l'objet de l'effort qui a été mené ces dernières années avec la loi confortant les principes.
Mais pour l'instant, c'est encore trop souvent le cas quand même.
Et c'est tout l'objet de l'investissement que l'on fait dans la police et dans la justice. On a des décennies de sous-investissement, des décennies de baisse de moyens, à la fois dans la justice.
Mais vous concevez que les Français ne puissent pas toujours raisonner en termes d'échéanciers qu'on leur promet à un horizon de 3, 4, 5 ans.
Non, mais il faut tenir un discours de vérité aussi. Il faut tenir un discours.
C'est-à-dire qu'on parle tellement loin qu'on ne va pas pouvoir le faire.
On prend nos responsabilités, mais vous parliez des États généraux de la justice.
Vous avez arrêté l'immigration.
Mais les États généraux de la justice montrent bien, effectivement,
que vous avez une
trajectoire. Attendez, j'ai coupé personne. Vous avez une trajectoire de baisse de moyens qui a été considérable depuis des décennies. Et c'est pareil pour la police, y compris d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy.
D'accord, mais enfin là, on entame le deuxième quinquennat. Il va falloir arrêter de faire le bilan des autres à un moment donné aussi.
Mais non, mais on ne fait pas que.
Là, on a déjà 5 ans de quinquennat derrière.
On a lancé des investissements, que ce soit sur la police et la sécurité. Et sur la justice, qui sont sans précédent dans les dernières décennies.
Oui, mais vous n'avez pas arrêté l'immigration.
Il faut former. Quand vous prenez, quand vous augmentez les effectifs de police pour doubler les patrouilles sur le terrain et dans les transports
en
commun.
Ça ne sert à rien.
Attendez, Jean-Michel.
Ça ne sert à rien. Écoutez, dites ça à notre collègue qui représente les policiers. Je crois qu'il y aura plus de moyens pour la police. Ça ne sert pas à rien.
Vous attendez.
Respectons un petit peu plus les forces de l'ordre. En l'occurrence, ça ne sert pas du tout.
Est-ce qu'il y a un lien entre délinquance, immigration, comme le dit Jean-Michel, Ludovine de la Recherche, s'il vous plaît, on va laisser s'exprimer.
Une loi de 2019 sur les moyens de la justice et qui souhaite que les peines de prison soient effectuées en milieu ouvert. Donc, par principe, juridiquement, les peines de prison qui ne sont que de quelques mois, comme c'était le cas de ce monsieur qui a eu 6 mois, qui a été condamné à 6 mois, ne sont, du fait même de la majorité présidentielle, pardonnez-moi, non exécutées en prison. Et de deux, l'immigration a considérablement augmenté, encore bien davantage avec Emmanuel Macron, là, après le confinement, a repris très, très fortement, et c'est encore plus important que sous François Hollande. Y a-t-il un lien avec l'immigration ? À l'évidence, il y a un lien. Cela ne veut pas dire que tous les immigrés sont des criminels et des délinquants, évidemment, mais cela veut dire que la France ne peut plus intégrer. Cela veut dire que ces communautés, finalement, pour tout un ensemble de raisons, à l'évidence, sont dans la haine de la France et des Français, alimentées par Jean-Luc Mélenchon et l'islamo-gauchisme, alimentées par l'idéologie woke qui accuse la France de tous les maux, et en particulier en Algérie, etc., etc. La situation est complètement folle aujourd'hui.
Vous avez envie de rajouter quelque chose sur le plan de l'intervention des policiers, peut-être. Je ne vais peut-être pas vous demander de parler au plan politique non plus.
On entend souvent des phrases, on nous dit que la prison, c'est le nid de la récidive.
On
le voit qu'aujourd'hui, c'est l'absence de prison qui fait la récidive. Ouais. C'est surtout
c'est
ça.
C'est vrai que c'est une leçon à tirer de ce cas d'espèce.
Évidemment, et qu'aujourd'hui, quand on nous parle de construction de places de prison, et le rapport des États généraux de la justice nous dit, comme l'a dit madame et l'a rappelé, que ce n'est pas la panacée, qu'il ne faudrait pas construire peut-être plus de places de prison, mais au contraire, privilégier le milieu ouvert, c'est-à-dire la liberté ou la semi-liberté avec quelques obligations. Mais on le voit aujourd'hui, on est extrêmement loin du compte quand on est face à
cette barbarie. Et surtout après, ça va crescendo.
Exactement, c'est que derrière, ça ne dissuade pas les gens de pouvoir continuer, les malintentionnés surtout.
En guise de conclusion, Jean-Messia, vraiment j'insiste, 30 secondes parce qu'on a d'autres thèmes à aborder.
On ne peut que s'étonner de l'aplomb avec lequel les représentants de la majorité viennent nous expliquer qu'ils ont mis les moyens et que tout va bien, alors que chaque jour
personne
qui passe,
bien,
on a des horreurs, comme c'est la vidéo qu'on a vue.
Mais ne caricaturons pas, ayons un débat responsable, sans caricaturer les propos des uns des autres.
Personne ne parle.
Je vous ai écouté.
Non mais vous m'interrompez, là je suis en train de parler.
Si vous avez une vision totalement caricaturale de ce qu'il dit, ça n'a aucun sens d'avoir un échange.
Il y a des cas comme celui qu'on vient de voir à Toulouse, là, c'est un cas parmi d'autres. Et encore, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je peux vous dire que personne n'en aurait parlé parce qu'on aurait mis la poussière sous le tapis. Il y a un autre cas là, dont personne ne parle, qui est le cas du jeune Eyal Haddad, qui a été massacré à la hache.
J'en parle depuis plusieurs jours.
Par un musulman fanatique.
On vient d'avoir un communiqué du ministère.
Mais vous parlez des réseaux sociaux. Il dit les réseaux sociaux.
Parce qu'il est feuge. Et personne n'en parle. Pas un média n'en a parlé, sauf I24 News. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent en France gravissimes. Il y a le retour de l'antisémitisme. Il y a un torrent insécuritaire, anti-français, qui gangrène le territoire entier. Et on a vous et vos amis qui arrivent sur les plateaux en nous disant nous avons
mis les moyens.
Le président, comme
vous voulez lui répondre, mais on n'a plus le temps. Je suis désolée. Jean-Messia, s'il vous plaît, vous avez dû faire court, vous n'avez pas respecté ma demande déjà. Oui, mais quand même.
Je veux juste réagir parce que la lutte contre l'antisémitisme, c'est un sujet qu'à mon avis, il ne faut pas l'instrumentaliser d'un point de vue politique. Nous, on a une majorité qui est extrêmement ferme. Vous avez raison, il y a des assassinats de juifs ces dernières années. Il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Sarah Halimi, il y a eu Mireille Knoll. on ne les oublie pas. On a renforcé aussi le droit pour lutter.
Des victimes françaises, effectivement,
de la communauté juive. Donc là-dessus, nous sommes d'une...
Et ce sera le mot de la fin, s'il vous plaît.
Une fermeté qui est absolue et qui souffre
d'autres. Allez, merci. On va parler politique. Merci beaucoup. Non, là, vraiment, j'aimerais qu'on passe à autre chose parce qu'on avait d'autres thèmes à aborder. Merci beaucoup, David-Olivier Reverdy, de nous avoir rejoints cet après-midi. Dans un instant, on accueille Gauthier Lebrun. On va parler politique avec une France qui voterait majoritairement à droite. On va commenter cette tendance, pas franchement nouvelle, mais vous allez le voir avec quelques changements tout de même. C'est une étude de Fondapol dévoilée par Le Figaro qui confirme la montée en puissance de ce qu'on appelle un vote protestataire qui profite au RN, l'éclairage de Geoffrey Defebvre.
Les Français de plus en plus à droite. En tout cas, le vote protestataire à droite connaît une progression de 5,2% entre 2017 et 2022. Lors du premier tour de la présidentielle, les électeurs ont voté à droite à 53% des suffrages, si l'on tient compte des électeurs ayant voté Emmanuel Macron et qui se positionnent spontanément à droite. Dans l'opinion publique, les thèmes habituellement portés par la droite, comme l'insécurité, l'immigration ou le libéralisme économique, deviennent majoritaires. Sur l'ensemble des scrutins de 2022, Marine Le Pen bénéficie de cette droitisation de l'électorat en récupérant entre un tiers et la moitié des électeurs de droite. Capitalisant aussi à gauche, 39% des électeurs proches de Lutte ouvrière et du NPA se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Pour la présidentielle de 2027, selon l'enquête Fondapol, Édouard Philippe et Marine Le Pen arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent voir candidates.
Gauthier Lebret nous a rejoint. Merci Gauthier pour l'éclairage politique. On va s'attacher quand même à quelques idées phares de la droite pour aller un petit peu plus loin que le sujet. Et vous allez voir un petit peu hein, les ratios. Regardez le carton qui va s'afficher sur les idées qui sont partagées par la plupart des électeurs. Je ne sais pas si on peut les apercevoir, si on m'entend en régie. J'aimerais bien qu'on puisse s'appuyer sur ces chiffres. Voilà. Les idées de droite. 63% des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. 56% de ces mêmes électeurs pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Et 53% des électeurs pensent que grâce aux innovations techniques scientifiques, on pourra continuer à développer l'économie tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Alors, quand même, j'aimerais, c'est ça qu'on retient, Gauthier, dans le sujet, la normalisation. Parce que là, on n'en est même plus au stade de dédiabolisation. Exactement. Quand on parle de Marine Le Pen. On parle carrément de normalisation. De ce point de vue, elle a réussi dans son entreprise ?
C'est certain. Alors, elle augmente dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, là, dans cette enquête, sauf Paris. Pour le moment, le Rassemblement national ne dirige qu'une seule ville hein, de plus de 100 000 habitants. C'est Perpignan, évidemment, avec Louis Alliot. Elle augmente aussi chez les cadres. Et comme vous le disiez, Nelly, dans l'enquête, on ne parle même plus de dédiabolisation, on parle de normalisation. Après une campagne présidentielle où Éric Zemmour, qui a soutenu Jean Messia, a fait office de paratonnerre et l'a normalisé un peu plus chaque jour, où donc elle a eu 89 députés à la surprise générale, y compris celle de Marine Le Pen et d'ailleurs de l'ensemble du Rassemblement national qui pensait avoir très peu de députés. Ils étaient d'ailleurs un peu désabusés.
Autour de 20-30 sièges dans les meilleurs pronostics.
Ils espéraient un groupe tout au plus. Effectivement, peut-être un peu plus avec 20 députés. Ils en ont 89, donc c'est tout à fait historique pour le Rassemblement national. Et on l'a bien vu, et monsieur le député ne me contredira pas, pendant les débats juste avant l'été, ce n'était pas du tout la même stratégie que la France insoumise, qui était une stratégie beaucoup plus offensive, de bruit, de chahut, face à un Rassemblement national qui a parfois voté les amendements qui allaient dans le sens du gouvernement, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat, tout en évidemment dénonçant le fait que ça n'aille pas assez vite. Donc c'est sans doute au fil de cette stratégie de dédiabolisation qui a commencé avec, on se souvient, le limogeage en bonnet du forme du père. Ouais. Hein. Elle a commencé par tuer le père, Marine Le Pen, à savoir évidemment Jean-Marie Le Pen. Donc effectivement, c'est sans doute ce qu'elle récolte aujourd'hui, c'est les fruits d'une stratégie qui, si on regarde les 89 députés, s'avère payante, même si effectivement elle n'a fait que 42% au second tour, ce qui était tout de même historique pour elle à ce moment-là.
Ludovine de la Recherche, certains disent même qu'elle va tenter d'évincer les Républicains, finir par se substituer à cette droite classique qui pourrait disparaître s'il n'y a pas de sursaut dans ce parti traditionnel.
Alors effectivement, il y a la convergence de deux éléments. Il y a d'abord la montée du ras-le-bol des Français face aux inepties successives de nos dirigeants. face à des politiques de gribouille. Alors on parlait d'insécurité, on parlait de tous ces faits si graves, si dramatiques, on parlait de l'immigration. Enfin, ces sujets sont de plus en plus prégnants dans les inquiétudes des Français. Et en effet, une stratégie de normalisation qui est très nette, qui est très claire et qu'on voit bien là au Parlement. Et donc, à un moment donné, et puis en fait, Marine Le Pen, dans ses propos, et depuis plusieurs années, s'abstient d'aller sur des sujets très polémiques. Il suffit qu'elle s'appelle Rassemblement National et Le Pen pour qu'on estime qu'elle ait telle et telle conviction. Et donc, elle n'en rajoute plus. Et à un moment donné, se posera la question pour elle de ses vraies convictions de fond par rapport aux Républicains. Oui. Alors, il reste le sujet de l'Europe. Le sujet de l'Europe, parce que dans cette enquête, il est montré aussi qu'il y a de moins en moins de rejet de Marine Le Pen. Enfin, il devient relativement
c'est
faible.
C'est même celle des trois principaux candidats qui a le plus d'adhésion et le moins de rejet. Principaux candidats, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen.
Et en fait, ce qui reste, c'est la question de l'Europe. Elle est réputée pour son rejet de l'Europe et cela semble inquiéter les Français. Ce qui pourrait ne pas durer, parce que l'Europe, les Français n'y sont pas non plus absolument super enthousiastes. Et donc, elle a beaucoup d'atouts dans ses mains.
Mais enfin, là aussi, elle a un petit peu entamé sa mue après le départ de Florent Philippot quand même.
Il y a 5 ans.
Exactement. C'était quand même. On est passé de.
On peut l'amener vers.
C'était la ligne Florent Philippot.
Absolument. Avec le départ de Florent Philippot, il y a quand même. Beaucoup d'eau dans le vin du RN qui a coulé. 39%, je vais vous faire commenter ce ratio-là. 39% des électeurs proches de Lutte ouvrière ou du nouveau parti anticapitaliste disent désormais qu'ils se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Ça vous inquiète? Ça veut dire que vraiment, il peut essaimer très large?
Moi, j'ai toujours été convaincu que si les républicains, les modérés, les centristes, quel que soit le nom qu'on veut donner, ne s'emparaient pas de sujets comme l'immigration, comme la lutte contre l'insécurité, comme la valeur travail, et le laisser à des extrêmes, oui. Parfois par tabou politiquement correct, etc., on avait effectivement le risque de voir l'extrême droite monter. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Marine Le Pen s'est normalisée. Ce n'est pas parce que vous avez des députés qui viennent, qui peuvent être polis, portent des cravates, que le discours sur l'Europe, sur la Russie, sur l'immigration, sur le rapport à la République
enfin, ils disent aussi qu'ils veulent être responsables dans leur vote vis-à-vis projets de loi
gouvernementaux.
Il y a certains projets sur lesquels...
Qui combat d'une manière incroyable au Parlement. C'est toujours des attaques contre LFI, contre le Rassemblement National. Et en n'osant pas attaquer LFI, qui a une attitude qui est beaucoup moins constructive.
Allez-y, finissez votre propos.
Nous sommes extrêmement clairs, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite à l'Assemblée nationale, nous sommes en majorité relative, que nous parlons, nous travaillons, nous ferons des compromis avec les Républicains du centre-gauche et du centre-droite, ce qui exclut la France insoumise et ce qui exclut le Rassemblement national.
Ni l'extrême-gauche,
ni l'extrême-droite. Et c'est totalement inexact ce que vous êtes en train de dire. Mais effectivement, nous, il faut qu'on soit ferme, qu'on s'empare de ces sujets, des sujets qui sont des sujets des classes populaires, la lutte contre l'insécurité notamment, on en a parlé tout à l'heure, mais avec un discours responsable et un discours de droit et de devoir. Sur la question de l'immigration, par exemple, nous prenons l'immigration de droit et de devoir. Si vous voulez venir en France pour respecter les lois de la République, pour travailler, pour vous intégrer, vous êtes le bienvenu. Et le pays vous aidera à vous intégrer. Mais si vous ne respectez pas, si par exemple vous êtes un délinquant, alors là à ce moment-là on va renforcer le droit pour pouvoir faciliter les expulsions.
D'accord. Mais les OQTF, c'est quand même pour les Français, c'est. Oui, d'accord, mais c'est votre passif. Quoi que vous en disiez, les 12%, les Français retiennent ça.
Non, mais attendez, là vous donnez un chiffre, par exemple, qui inclut les années Covid, donc qui est totalement biaisé. En réalité, le chiffre exact est plus élevé.
Ça ne va pas être 70%.
Autour de 30%. Mais effectivement, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement que nous devons augmenter ce chiffre. En renforçant l'arsenal, en faisant par exemple moins de recours, moins d'appels pour pouvoir faire en sorte que les
Jean Messia, vous revenez en dernière demi-heure. Je suis désolée parce que là, on a vraiment débordé. On avait beaucoup de thèmes à traiter, mais on reste évidemment pour parler de ça. Et puis du vote musulman aussi. Vous verrez ce que ça donne. Selon une note confidentielle du renseignement territorial, les policiers disent que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un vote musulman sous la pression de nombreux influenceurs et activistes islamistes. Précise la note. Évidemment, c'est tout ce terme qu'on va s'attacher à étudier, à analyser ensemble. À tout de suite. Il est 16h30 et on revient pour la dernière partie du débat 90 minutes info, juste après le flash présenté par Isabelle Pieboulot ce soir.
Le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen, décidé par Gérald Darmanin. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur parle d'une grande victoire pour la République. Le juge des référés a estimé que les comportements de l'imam constituent des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination ou à la haine, justifiant une expulsion. En France, le prix du gazole continue d'augmenter. Une hausse de 8,6 centimes en une semaine, c'est-à-dire 1,99 euros le litre. C'est plutôt stable du côté du sans-plomb. 1,79 euros le litre pour le sans-plomb 95 et 1,90 euros le sans-plomb 98. Les crèches municipales sont en grève aujourd'hui. Elles manquent de personnel, particulièrement en Ile-de-France. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Les professionnels de la petite enfance craignent donc une détérioration du niveau d'encadrement des enfants.
Merci Isabelle. On a parlé tout à l'heure de la France qui vote majoritairement à droite. On a parlé de la normalisation de Marine Le Pen. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui au juste d'être de droite? Écoutez ce qu'en disait Michel Onfray.
Moi je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites ce serait bien qu'à l'école on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement, eh bien on vous dit oh là là, quel type de droite? Ça veut dire que quoi? À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites, ce serait bien quand même que, quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue, on dit, oh là là, quel type de droite, etc. Et bien, ça veut dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire d'extrême droite.
Il y a qui voulait la parole? Il a raison, c'est-à-dire que dès qu'on s'insurge, qu'on s'offusque de quelque chose, ça y est, on est réactionnaire, on est de droite.
Alors ça, c'est effectivement le bon sens que tout le monde peut constater. Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est d'ailleurs ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça veut dire quoi être de droite, en fait? La dernière fois que quelqu'un, un politologue, a défini la droite, c'était René Raymond. Il parlait des trois droites en France. Et effectivement, cette étude, moi, ne me satisfait pas au regard de ces trois droites, qui étaient la droite justement catholique, la droite libérale et la droite bonapartiste. C'est les trois droites en question. Et donc l'étude, en fait, considère par exemple que la droite qui est chez Emmanuel Macron, les électeurs de droite qui votent pour Emmanuel Macron, puisque c'est majoritairement à droite qu'on vote Emmanuel Macron, hein, ils l'intègrent en fait à cette droite-là. Moi, je considère que la droite, telle que l'a incarné le général de Gaulle, c'est plutôt la droite bonapartiste et la droite conservatrice. Après, vous avez une droite libérale qui est à la fois libre-échangiste, européiste et mondialiste. Progressiste. Cette droite-là, en fait, ce n'est plus la droite. C'est une droite qui a jeté par-dessus bord tout l'héritage, national, patriotique, identitaire, etc. Donc, moi, cette étude-là ne me satisfait pas parce qu'elle montre rien, en fait. La deuxième chose, c'est est-ce que Marine Le Pen est de droite? Mais moi, j'en suis pas si sûr. Elle est de droite sur les questions sécuritaires, par exemple, et identitaires, mais est-ce qu'elle est de droite sur le plan économique? Est-ce que la retraite à 60 ans, c'est une mesure de droite?
Elle a coutume de dire ni droite ni gauche.
Elle
se définit comme ni de droite ni de gauche.
C'est ça le problème. Est-ce qu'elle propose en termes d'amélioration du pouvoir d'achat? Puisque je vous rappelle quand même que Marine Le Pen a fait campagne sur le pouvoir d'achat. Elle n'a pas fait campagne sur la sécurité et l'identité, ce qu'elle aurait fait s'il avait été de droite tel que nous l'entendons. Donc Marine Le Pen elle-même ne s'identifie pas comme étant de droite.
Donc vous le voyez, pouvoir d'achat, c'est l'apanage de la gauche ou des partis non droite, en tout cas
les mesures qu'elle a défendues sur le pouvoir d'achat peuvent être qualifiés effectivement de mesures plus.
Enfin, même des formations de droite veulent le bien, commun quand même.
Dans les villes de 100 000 habitants. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que cette frontière entre la gauche et la droite, compte tenu de l'exposé que je viens de faire, sont quand même relativement brouillées et il est impossible d'avoir comme ça des résultats sur un mot dont on ne connaît pas la définition en fait.
Après, il y a des phrases dans le, je vais les prendre dans un instant, mais des propositions, par exemple, quand 63% des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. Sur des idées très précises, il y a plus de 50% qui pensent dans cette étude qui pensent que, en gros, quand on est chômeur et qu'on n'a pas de travail, c'est un peu de la faute du chômeur. C'est aussi plutôt une idée de droite.
Attention, parce que si vous avez bien lu l'étude, vous vous rendrez compte que je crois 40% ou 39% de l'électorat du nouveau parti anticapitaliste et de lutte ouvrière partage les valeurs du Rassemblement
national. Oui, mais pas sur le chômage. Donc, là, il vous parle du chômage. Non, mais on l'a catégorisé quand même.
Sur l'immigration.
D'accord.
Donc vous voyez, c'est pas.
Mais si on doit y placer sur l'échiquier politique, c'est plutôt des idées de droite que des idées de gauche.
Le domaine de la recherche, allez, on va de l'autre côté de la table.
En fait, Chafron Paul, elle considère comme de droite les personnes qui répondent spontanément je suis à droite. Et c'est vrai qu'en vérité, dans ce qui est cité, on est plutôt sur une droite, réduite à la question de la sécurité et de l'immigration. Et après, je suis d'accord avec Jean Messia, en vérité, la droite, c'est beaucoup plus large que cela. Ça n'empêche pas qu'elle puisse être éventuellement sociale. Mais quand Marine Le Pen prêche la retraite à 60 ans, elle va dans le sens contraire du bon sens en matière d'économie. Tout simplement, là, il suffit de faire un petit calcul qu'on peut faire, en classe de 6e et encore bien avant. Ça ne tient pas, la retraite à 60 ans. Et la droite, généralement, sur un plan économique, est un peu plus pragmatique que la gauche, dont d'ailleurs il a fallu abandonner toutes les mesures parce qu'elles n'ont jamais fonctionné.
Benjamin Haddad, pour vous, ce discours, en fait, il est stérile
Non, mais moi,
Emmanuel Macron, qui lui a voulu complètement dynamiter cette échiquier politique tel qu'on le connaissait.
Ce que je trouve justement intéressant dans le débat qu'on vient d'avoir, c'est que ça confirme totalement le constat qui avait été fait par Emmanuel Macron il y a quelques années, puisqu'on voit qu'à droite comme à gauche, il y avait des divisions fondamentales sur des sujets qui structurent de plus en plus nos débats politiques, comme le rapport au libéralisme économique, oui. Comme le rapport à l'Europe, peut-être aussi à la République et la laïcité, et qu'il y avait des divisions au sein des partis traditionnels. Je vous donne un exemple, LR. Pendant la campagne présidentielle, on s'est beaucoup focalisé sur les meetings de Valérie Pécresse, etc. Mais fondamentalement, quand le soir du premier tour de l'élection présidentielle, vous avez Valérie Pécresse qui appelle à voter immédiatement pour Emmanuel Macron, mais que le numéro 2 de la campagne, Éric Ciotti, parce qu'il était arrivé numéro 2 à la primaire, lui dit qu'il préfère voter blanc et qu'il aurait voté plutôt pour Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, là vous avez des divisions de valeurs fondamentales et insurmontables.
Mais il y a ceux qui viennent de la gauche, il y a ceux qui viennent de la droite.
Mais pas sur le fondamental. Mais justement, pas sur les sujets fondamentaux. Pas sur le rapport à la République, pas sur le rapport à l'Europe, pas sur le rapport à la réforme économique et au libéralisme.
Non, Emmanuel Macron est dans l'ambiguïté. Et en même temps, il y a des choses qui évoluent, mais en vérité, il est dans la contradiction permanente.
Pas sur les sujets fondamentaux. Pas comme à gauche, quand vous avez une partie de la gauche qui décide, une partie de la gauche, je dirais, social-démocrate, réformatrice, qui décide de rejoindre notre famille politique, tandis qu'une autre préfère aller au sein de la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, ce sont des différences fondamentales.
Merci beaucoup. On va juste interrompre sur ce thème-là, aborder un autre sujet avec vous. Je vous en parlais tout à l'heure à l'entame de cette dernière demi-heure. Cette note confidentielle du renseignement territorial qu'Europe 1 a pu se procurer sur le vote musulman qui a bénéficié donc très largement, on va le voir peut-être avec un nouveau carton qui va s'afficher, à Jean-Luc Mélenchon. C'est une note de 12 pages, mais qui surtout observe des influences islamistes, 69% du vote musulman. Et c'est là que c'est intéressant. Il nous dit deux choses, en fait, Gauthier Lebray, si on résume. C'est qu'on agite l'épouvantail Éric Zemmour, en partie, pour capter cet électorat-là. Et puis, on pose quand même un gros bémol au choix Mélenchon, car malgré tout, pour les frères musulmans, hein, parce qu'ils sont derrière ces associations notamment, il est pour la République, ce qui leur pose un gros problème politique à eux.
Oui, alors c'est ça. Ça part du sondage qui avait été publié dans La Croix où 69% des électeurs musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et donc le renseignement territorial a fait une enquête pour savoir comment tout ça s'est passé. Et effectivement, selon le renseignement territorial, des islamistes et des influenceurs communautaires ont fait du lobbying pour appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et alors effectivement, ce que vous disiez sur Éric Zemmour, c'est qu'il y avait une vive inquiétude au moment de la montée en puissance en septembre, octobre, novembre dernier d'Éric Zemmour dans la communauté musulmane, quand ces thèmes commençaient à s'imposer, après la campagne a bien changé. Et effectivement, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Bon, déjà parce que son discours a diamétralement changé en 5 ans sur le voile. Il y a eu cette manifestation à laquelle il a participé, à laquelle la France insoumise a participé contre l'islamophobie. Et il y a ce fameux débat sur la loi séparatisme. Et c'est à partir du moment vraiment où Jean-Luc Mélenchon s'est opposé de manière très vive au Parlement contre la loi séparatisme, puisqu'à l'époque il était député, qu'il a été ciblé par ses influenceurs, ses islamistes, comme le candidat qu'il fallait effectivement soutenir.
Jean Messia, réaction.
Réaction, c'est guère étonnant. D'abord, c'est ce chiffre. La première question est d'ordre méthodologique. Je croyais qu'il n'y avait pas de statistiques ethniques en France, donc je ne sais pas comment ils arrivent à calculer les 69% de vote. C'est pareil, de vote musulman. Ça, mis à part, la deuxième chose, c'est que c'est.
Non, mais là, c'est un vote confessionnel, donc c'est pareil.
Comment on peut le savoir, je veux dire.
La sortie des urnes, sondage sortie des urnes.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la réussite de la stratégie opérée par Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse
que d'islamiser son propos, d'islamiser sa campagne, de faire des appels du pied au communautarisme, y compris le communautarisme le plus virulent. Et vous savez, il y a deux agendas. Jean-Luc Mélenchon a dit que la créolisation de la France était une bonne nouvelle, le métissage était une bonne nouvelle. Donc Jean-Luc Mélenchon est dans un agenda de changement de peuple dont il se réjouit. Et ça tombe bien puisque les islamistes, eux aussi, veulent changer le peuple français, veulent islamiser la France, veulent changer le visage de la France. Donc en fait, les deux, à la fois la France insoumise et le vote islamiste, se prennent tous les deux pour les idiots utiles l'un de l'autre.
On savait pour les 69%. Ça, c'est le fait en lui-même, comme le dit Gauthier, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau dans cette note, c'est l'influence réelle de ces islamistes, de ces influenceurs, comme on les appelle un peu pudiquement.
Alors moi, je connais ni l'origine ni la méthodologie de cette note, donc je reste un petit peu prudent sur le chiffre, par exemple. Mais cela étant dit, il y a, de la part de la France insoumise, une stratégie de communautarisme, de soutien, effectivement, à un certain nombre de mouvements. Et on l'a vu, il suffit de regarder. Alors, vous parlez de l'opposition à la loi contre le séparatisme qui avait été votée par la majorité. Il suffit de regarder plus récemment, par exemple, la France insoumise qui s'est opposée à l'expulsion de l'imam Hussein. Donc, sur tous les combats, on voit toujours la France insoumise du mauvais côté. On a vu cet été des prises de parole suite à la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie, de la part de Clémentine Autain qui au début dit attention, ne préjugeons pas trop, on ne sait pas.
Ou absence de prise de parole.
Absence de prise de parole.
Quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon.
Discours anti-flic.
Donc il y a toujours, et discours effectivement contre la police, qui dit que la police tue, qui dit qu'il faut désarmer la police. Donc il y a de la part
toujours
de
à rebours.
France à
ce qui se fait, ce qui se dit.
Mais à rebours, mais une stratégie très claire de clientélisme et de communautarisme sur ces sujets.
Les 20 dernières secondes pour vous, mais vraiment j'insiste.
Alors, il y avait aussi un certain nombre de vidéos d'influenceurs qui sont des imams, et on pourrait aller regarder les vidéos de M. Hussein, qui appelait très clairement à voter Jean-Luc Mélenchon, tout en disant « nous ne sommes pas favorables, ces imams, nous ne sommes pas favorables à tout ce que veut Jean-Luc Mélenchon, mais il est favorable à ce que nous puissions exercer notre culte de la manière la plus large possible, et donc, d'une certaine manière, sans respecter les Français. » Ça, c'est un point très important, parce que c'est strictement religieux. Et l'autre chose, c'est que M. Haddad disait tout à l'heure « les immigrés sont bienvenus », en soi, tout le monde est bienvenu, sauf qu'on n'en a pas la possibilité et qu'on a une vraie difficulté. La prochaine fois, Jean-Luc Mélenchon est élu à ce rythme-là.
Moi, j'ai,
on a toujours de plus en plus...
Une punchline, si vous n'avez pas de punchline, pour justement, ça servira de lancement.
La majorité ne cesse de nous répéter que les islamistes sont une minorité. Comment expliquez-vous que lorsqu'ils se mettent en action, 69% des musulmans leur obéissent?
Ah mais arrêtez avec
ne vous échappez pas, après répondez à la question. Vous nous dites que c'est une minorité.
Mais vous déduisez du fait qu'il y a quelques influenceurs et que peut-être une majorité a voté, que forcément il y a un lien que vous avez fait entre les deux.
69% des musulmans qui votent.
Non mais là vous
allez, on peut pas entamer ce débat là.
Base sur ce que vous venez d'affirmer.
Si,
merci beaucoup, Jean Messia, vous m'avez roulé dans la farine, je vous ai pas demandé de remettre une pièce dans la machine. Merci, c'est fini, l'émission est finie, je suis désolée.
Si on ne veut pas la prochaine fois de l'élection de Jean-Luc Mélenchon,
dans un instant, punchline, Laurence Ferrari, on s'excuse déjà du débord dans son émission. Merci Gauthier Lebray.
Merci,
à demain pour 90 minutes info.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.